Marc, la dernière fois, on avait abordé un peu les croyances parce que, bon, notre raison de causer ensemble est de s'adapter aux changements imposés ou choisis dans notre quotidien. Et vous nous disiez qu'un des grands obstacles était souvent la croyance. Il y avait des perceptions, des présomptions que l'on voyait ou que l'on percevait, et parfois ces croyances-là nous paralysaient.
Oui, absolument. Et dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est pas juste pour faire un petit rappel, c'est que la façon qu'on a de percevoir les choses, elle est déterminée par un paquet de filtres, dont les croyances. Et le plus bel exemple que je pourrais vous donner pour qu'on résume tout ça, c'est imaginer quelqu'un qui croit profondément que le pire est à venir. Ben, ce filtre-là fait que dans son quotidien, il va aller chercher ce qui confirme ça, il va écouter les nouvelles, puis il va percevoir tout de suite ce qui confirme que le pire est à venir, il va lire les journaux, il va aller chercher ce qui... Vous voyez, une croyance, on cherche constamment à la confirmer. Alors, si elle est paralysante, ben je me reparalyse à chaque fois et dans le changement, on en a des croyances qui ne nous aident pas sur nos capacités à faire face au changement ou sur l'avenir ou peu importe. Et il faut essayer de développer des croyances qui sont aidantes.
Peut-être juste donner comme exemple ceux qui ont déjà vécu cet exercice où on vous propose, après avoir causé, une image. Et cette image-là peut, si on veut, porter à confusion, soit supposons la jeune femme ou la dame âgée, et selon le message reçu avant la photo, exemple, supposons, vous avez un texte, moi j'ai un texte, on va voir l'image selon l'attente que l'on avait dans ce texte-là. Si dans le texte, on nous dit, il y a une vieille dame qui marche dans le bois, et tatata, et que là, le professeur nous demande, qui voyez-vous? On va être influencé à cause du texte.
C'est très vrai, hein? C'est un bel exemple que vous donnez, Luc, c'est l'image de la jeune et de la vieille femme. La difficulté, c'est que souvent, une fois qu'on voit une des deux, on a bien la difficulté à voir l'autre. Et pourtant, les mêmes éléments de stimulation, de perception sont là, mais sauf que le cerveau est fait comme ça, l'être humain est fait comme ça. On se met des barrières, on appelle ça un peu la vision tunnel, hein. C'est une façon de, bon.
Comment désamorcer ça, Marc?
Je pense qu'on peut y aller de bien des façons. C'est pas nécessairement simple toujours à désamorcer des croyances qui sont pas aidantes, mais je pense que la première chose à faire, on l'a dit la dernière fois, c'est d'en prendre conscience. Et moi, ce que je conseille souvent aux gens, c'est, je donne souvent l'exemple de, rappelez-vous, quand vous avez cru au Père Noël, c'était une croyance que vous aviez, vos parents vous l'avaient donnée, bon, tout l'environnement, les médias. Puis à un moment donné, on a arrêté de croire ça. Pourquoi on a arrêté d'y croire? C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui l'a mis en doute. Alors, ça a pu être d'autres enfants à l'école qui nous ont dit, tu crois à ça, tu n'as pas de raison de croire à ça. Ou ça a pu être que, comme mon fils, à un moment donné, pendant que je faisais le Père Noël, qui a vu ma montre, puis qui m'a reconnu. Alors, il y a de quoi tout d'un coup qui vient mettre en doute ce que je crois profondément. Et c'est la façon de faire. Je pense qu'il faut essayer de l'ébranler un peu, en prendre conscience. Puis comment on l'ébranle? Ben moi, je trouve qu'il y a des bonnes questions qu'on peut se poser. Par exemple, se demander qu'est-ce qu'il y a de ridicule à continuer à croire ça. Si je crois que le pire est à venir, je vais toujours trouver des choses pour confirmer ça. Et Dieu sait que ces années-ci, il y en a. Ça me fait penser à Einstein qui disait, à un moment donné, dans notre vie, on a le choix entre croire, se poser la question, est-ce que pour moi l'univers, c'est une place amicale ou est-ce que c'est une place dangereuse? Puis si je crois fondamentalement que c'est une place dangereuse, je vais me le confirmer. Alors, et même chose si je crois que l'univers est une place amicale, dans le fond, c'est pas de se mettre des œillères, mais c'est de réaliser que des croyances ne m'aident pas. La mettre en doute en se demandant qu'est-ce qu'il y a de ridicule là-dedans. Peut-être se demander, moi, ça m'a beaucoup aidé, entre autres, de plus jeune, de changer des croyances que j'avais sur moi comme personne, entre autres que, bon, je ne serais jamais capable d'intéresser un auditoire, puis pourtant, j'enseignais, là, alors c'était des croyances paralysantes que j'avais, puis Dieu sait que je faisais un métier où j'avais à rencontrer des gens. Alors, se demander, par exemple, qu'est-ce que ça m'a coûté dans le passé de croire ça. Et là,
je prends l'exemple que vous nous donnez. Vous êtes enseignant, vous avez de la difficulté à croire que vous êtes pertinent. Il y a deux façons de voir ça. Vous pouvez vous dire, pour essayer de modifier vos croyances, que les gens sont là, ils quittent pas en plein milieu de la classe, ils remettent les travaux, etc. Mais vous pouvez aussi vous dire, mais ils sont obligés d'être là. Donc, il y a des gens qui sont doués pour le bonheur, il y a des gens qui, on dirait, vont vers toujours ce sentiment d'imposteur-là. Comment choisir la raison positive alors que la raison négative est également plausible?
Je pense que c'est, à un moment donné, on choisit par nécessité pour deux raisons. La première, c'est que c'est bien souffrant des fois de continuer à croire. Et c'est la souffrance souvent qui va nous faire changer. Puis l'autre, ben, c'est quand tu as des rêves ou quand tu as des objectifs, tu dis, je me souviens, je voulais donner des conférences un jour dans le public, ce que je fais maintenant, puis j'ai aucune misère, mais mon Dieu, que je me replace à l'époque, je me disais, jamais je serais capable de faire ça. Ouais. Mais quand tu as un objectif en tête, quand tu as quelque chose que tu veux faire, ben des fois, ça peut être suffisant pour venir t'aider à ébranler cette croyance-là, puis essayer d'aller peut-être voir un peu plus qu'est-ce qu'il y a. Je me souviens, les premières années que j'enseignais, mon épouse Marie, avec qui je suis dans Oser Échanger, enseignait elle aussi dans un autre cégep. On était chacun dans notre cégep. Moi, je revenais le soir, j'étais complètement défaite. Elle revenait, puis elle pétait le feu. Et vous nous auriez regardé de l'extérieur, puis vous auriez vu deux bons profs, je dirais, relativement près de leurs étudiants, bon, etc. Mais comment ça se fait qu'elle pétait le feu, puis que moi, j'avais l'impression d'être complètement incompétent? Et à un moment donné, c'est en me posant des questions du genre, bon, mais qu'est-ce que ça me prend pour être compétent? Et ça rejoint un peu ce que vous dites, Luc, c'est qu'à un moment donné, j'ai réalisé, bon, mais les étudiants, ils m'écoutent, bon, ils sont là, etc. Comment ça se fait que moi, quand je rentre dans une classe, je vais toujours chercher ceux qui n'écoutent pas ou regarder celui qui baille dans le coin, bon. Et à un moment donné, j'ai réalisé que c'était moi qui faisais ça et que j'avais probablement des critères de performance qui n'étaient tellement pas sous mon contrôle. Je veux dire, c'est pas sous mon contrôle que les étudiants soient attentifs pendant 3 heures de temps. Ben oui, il y a une partie qui est sous mon contrôle, mais en bout de ligne, là, je sais pas ce qu'ils ont vécu avant. Moi, j'avais des étudiants qui arrivaient à 8 heures le matin, qui étaient fatigués, ils avaient travaillé toute la nuit. Regarde, là, il y aurait eu un feu d'artifice en avant, ça n'aurait rien changé. Mais à un moment donné, j'ai réalisé, ben, qu'est-ce qui est sous mon contrôle là-dedans? C'est quoi le critère qui pourrait être sous mon contrôle? Ben, c'est de donner le meilleur de moi-même. Ça, je suis capable de le faire.
Donc, de se donner des raisons, c'est-à-dire d'analyser d'abord la croyance, d'en prendre conscience, et ensuite de presque s'imposer une nouvelle croyance avec une liste de choses positives associées à cette nouvelle croyance-là?
C'est tout à fait ça. Ouais. C'est, dans le fond, réaliser qu'est-ce que je veux croire et essayer, de la même façon qu'une croyance paralysante ou une idée paralysante que j'ai sur moi ou sur les autres, elle s'appuie sur des références, sur des choses qui sont des choses qu'on m'a dites, des choses que mes parents m'ont dit, etc. Ben, les nouvelles croyances, il faut que je sois capable aussi de les appuyer sur quelque chose. Sinon, ben, je suis pas capable de changer ça. Comment je me dirais, oui, je suis intéressant, ou oui, le meilleur est à venir, si moi, toutes mes références, c'est un peu comme une table. Hein? Ouais. Une table qui est appuyée sur 4 pattes, c'est solide. Si je veux briser la table, il faut que je casse les pattes. Alors, une croyance, souvent, c'est appuyé sur des pattes, c'est des références, dans le fond. Puis des fois, on a plus que 4 pattes à une croyance. On peut en avoir 300, là, des choses que les gens m'ont dit, des expériences. Alors, il faut que je mette en doute ça, que je coupe les pattes. Et les nouvelles croyances, bien, la nouvelle table, je dirais, il faut que je lui mette des nouvelles pattes. C'est-à-dire, essayer d'aller dans mon passé, voir... à quel moment j'ai cru ça, puis que j'ai pu avoir une expérience qui soutienne cette nouvelle croyance-là. Alors, c'est pas nécessairement simple, mais c'est un travail, je trouve, qui est possible à faire, dans le sens que c'est à la limite, on va un peu dans l'affectif pour voir qu'est-ce qui m'en coûte de continuer à croire que je suis pas bon en ci ou que je serais pas capable de traverser tel changement. Qu'est-ce que ça me coûte émotivement? Qu'est-ce que ça me coûte même éventuellement financièrement, qu'est-ce que ça va me coûter dans le futur? Et ça, moi, je me dis, l'imaginaire, ça me fait penser, je ne sais pas si vous, dans le temps de Noël, vous avez vu le fameux film là, de Scrooge, hein, avec ses fantômes du passé, du présent et du futur. Ses fantômes du passé, il a vu à quel point il était dans le passé, ça l'a fait souffrir. Le fantôme du présent, il voyait ce qu'il faisait là, mais c'est quoi qui l'a fait changer? C'est quand il a vu dans le futur qu'est-ce qu'il serait s'il continue à être ce qu'il est présentement. Et ça, ça l'a réveillé. Puis je me dis souvent, des croyances, c'est comme ça qu'on les change. Je me dis, si je continue à croire ça, là, comment je vais être moi dans le futur? Et encore là, je me dis, l'imaginaire, le cerveau a une capacité chez l'être humain de pas faire la différence entre le réel et ce qu'il imagine. Alors, si j'imagine le pire, inquiétez-vous pas, vous allez réagir.
On va le trouver.
L'être humain n'est pas fait pour souffrir. Alors, quand notre cerveau nous fait souffrir, ben on réagit. Et alors, vous voyez, c'est des façons, je dirais, qui sont un peu rationnelles, mais qui en même temps... Et comment on appuie une nouvelle croyance? Ben, c'est le contraire. C'est quoi? Qu'est-ce que ça va me donner dans le futur si je crois ça?
J'aimerais ça que, pour notre prochain rendez-vous, on puisse regarder l'application de cela. Oui. Comment ne pas se sentir hypocrite dans cette démarche-là, étant donné qu'on y a cru tellement longtemps aux aspects négatifs? Et est-ce que, bon, c'est de se mettre des cartes sur le frigo? Est-ce que, je sais pas comment, dans le quotidien, on peut changer cette optique-là? Mais c'est une chose de le rationaliser, c'est une autre chose de le rendre applicable. Par contre, j'entends très bien ce que vous dites. Et à certains égards, je me reconnais là-dedans. Donc, on va poursuivre cet exercice-là. Les gens, d'ailleurs, de toute façon, peuvent lire sur le sujet en allant sur osechanger.com, je présume?
Oui, puis sur le blog du site, on met la chronique, on fait un lien vers la chronique. Alors, les gens peuvent aller la réécouter. Et on met des textes aussi qui sont en lien avec ça. Des fois, 15 minutes, c'est pas très long, mais là, ils ont des références absolument gratuites là, qu'ils peuvent aller chercher et compléter.
Merci de le faire et merci d'avoir été là encore aujourd'hui.